Puis ça, c'est pour éveiller. Hein. L'interrogation permet d'aller plus loin et de mieux préciser. Donc, la dernière fois, je vous ai rappelé rapidement ce que c'était que la position de la critique. Comment comprendre la critique comparativement à ce que représente le point de vue métaphysique. C'est toujours important de bien voir les deux et de bien comprendre que ces deux positions sont diverses dans une position idéaliste ou dans une position réaliste. On critique ce qu'on connaît déjà. Et on essaie d'aller le plus loin possible de la critique pour mieux connaître le réel, mieux connaître la réalité. Donc la critique est au service de la métaphysique. Elle n'est pas quelque chose d'ultime, elle est au service de la métaphysique. Et je crois que la philosophie, si elle est une vraie philosophie, demande cette lucidité constante qui fait qu'on doit toujours aller plus loin dans cette lucidité intellectuelle. Mais il ne faut pas que la lucidité intellectuelle tue, je ne dis pas la spontanéité naturelle, mais tue ce que représente cet appétit naturel de l'intelligence vis-à-vis de la vérité et l'exigence de croissance. Bon. Une fois qu'on situe la critique dans cette attitude réflexive pour comprendre le comment de la croissance de ma vie intellectuelle, toute croissance ne peut se comprendre qu'en voyant le point de départ et le terme. Il y a donc le souci premier de la critique de saisir le point de départ de ma connaissance intellectuelle. Je crois que c'est la première question qu'on se pose. Quel est le point de départ de ma connaissance intellectuelle? Je ne dis pas le point de départ de ma connaissance philosophique, mais le point de départ de ma connaissance intellectuelle. Qu'est-ce qu'il y a de premier? Qu'est-ce qu'il y a de plus élémentaire dans ma vie intellectuelle? Où je découvre l'élément. Alors, c'est là où je vais très vite, alors, à partir de maintenant, pour rejoindre ce que nous avions dit. N'est-ce pas, pour ne pas. Alors, c'est là où il faut d'abord comprendre toute la richesse, toute la perfection des développements de ma vie intellectuelle, de ma vie imaginative et de ma vie sensitive. Dès que je réfléchis, je vois que la connaissance n'est pas seulement intellectuelle. Il y a une connaissance au niveau imaginatif. Il y a des gens qui connaissent en restant toujours au niveau imaginatif. Ils ne dépassent jamais l'imagination. Il y a une connaissance au niveau sensible, c'est encore autre chose. Donc je peux facilement, dans cette réflexion, saisir ces trois niveaux. Sensation et la diversité des sensations. Imagination, la fantasia avec les souvenirs et le point de vue de l'intellection. C'est important de se rappeler toujours ces trois niveaux. Alors il faut essayer de les découvrir soi-même dans son petit examen intellectuel hein, de ce que représente la vie de notre connaissance. Je crois qu'on peut dire que la sensation, c'est ce contact immédiat avec les qualités sensibles. Le point de vue de l'imagination, c'est notre première autonomie dans l'intelligence, dans la connaissance. Les premières synthèses sont imaginatives. Il n'y a peut-être que l'imagination qui fait des synthèses. Ça, c'est un grave problème. Je pose au moins la question, posez-vous la question. Au point de vue imaginatif, vous faites toujours des synthèses. C'est très curieux. Il y a un besoin de synthèse au point de vue imaginatif. Et de voir que l'imagination, c'est la première connaissance où on a une certaine autonomie. Je ne suis pas dépendant de l'objet de la réalité présente. Je peux imaginer des choses que j'ai vues il y a très très longtemps. L'imagination et le souvenir sont au-delà de la présence immédiate de la réalité sensible. Et l'imagination produit un fruit particulier qui est l'image, qui est de l'ordre de la représentation. La sensation ne se représente rien. Elle sent. Bien distinguer l'imagination et la sensation. Nous y reviendrons, du reste, si nous avons le temps d'étudier la sensation. L'imagination se représente. On reconstruit. On additionne, on soustrait. Si je veux préciser, au point de vue critique, la différence entre l'imagination et la sensation, je dirais la sensation est déterminée par les sensibles propres et l'imagination est déterminée par les sensibles communs. Il y en a combien parmi vous qui connaissent la distinction sensible propre et sensible commun, qui lèvent la main? Et je peux les interroger, hein. Pour voir un peu, c'est pour me rendre compte, parce que je n'ai pas envie de répéter tout le temps, n'est-ce pas? Levez la main hardiment, quand même. Oui, ça fait quand même. Alors, il y en a combien qui ne savent absolument pas ce que c'est que la distinction des sensibles propres et des sensibles communs? Il y en a qui savent à peu près. Ils savent à peu près. Ceux qui ne savent pas. Alors, en deux mots, hein. C'est simple. C'est une distinction typiquement aristotélicienne. C'est Aristote le premier qui a fait cette distinction. Je ne crois pas qu'elle est chez Platon. C'est une distinction typiquement aristotélicienne et intéressante que saint Thomas a repris et qu'après saint Thomas, elle n'existe plus. C'est toujours très intéressant, hein, quand on fait l'histoire de la pensée, de voir à partir de quel moment une distinction émerge. Et à quel moment elle redevient en dessous du niveau de la mer et qu'elle disparaît. C'est une carte géographique, quoi. Il faut comprendre ça. Je crois que c'est la seule manière de faire avec intelligence un peu d'histoire de la philosophie. C'est de voir quel philosophe apporte telle distinction. Et à partir de lui, cette distinction a été reprise ou a été rejetée. Et c'est très important, ça, parce que c'est des émergences. Eh bien, Aristote est le premier qui fait cette distinction entre sensible propre et sensible commun. Les sensibles propres, c'est ce que chaque sens en particulier saisit. Mon œil, il voit l'éclair et la lumière. Je ne sens pas la lumière. À moins d'être un homme très particulier. Je ne sens pas la lumière. Seul l'ouïe entend les sons. Je ne vois pas les sons. Donc les sensibles propres, c'est ceux qui sont saisis par un sens en particulier. Les sensibles communs, ce sont ceux qui sont saisis par plusieurs sens. Vous voyez, le bien commun de la sensibilité. Le bonum commune, le bien commun de la sensibilité. Et le bien commun de la sensibilité, oui, le mouvement, par exemple. Le mouvement, il est saisi par la vue. Vous regardez un avion qui bouge. Vous l'entendez. Vous le touchez. Vous le goûtez. Quand vous prenez un gros bonbon dans votre bouche, hein, et vous le faites rouler, ben, il y a le mouvement. Donc, vous avez la sensation du mouvement. Donc, il y a des sensibles communs qui sont saisis par plusieurs sens, et des sensibles qui ne sont saisis que par un seul sens. Alors, les sensibles propres, c'est les sensibles saisis par un seul sens, et normalement, tous les sensibles propres impliquent des sensibles communs comme sujets. Ils sont liés à des sensibles communs. Les sensibles communs, ils sont sains. Il faut les retenir, ça. Il faut voir s'il y en a d'autres. Il y a le mouvement et le repos. Il y a la grandeur et le nom, et il y a la figura, la figure. Vous avez cinq sensibles communs. Ça, il faut les savoir. Hein. Ça fait partie de certaines choses qu'on doit... Vous pouvez les retrouver, du reste. Hein. C'est très intéressant à retrouver ça dans vos sensations, les sensibles. La chaleur n'est pas un sensible commun. Vous pouvez discerner, vous-même, la petite table de discernement entre les sensibles propres et les sensibles communs. Alors, ce qui est très curieux, c'est que, normalement, dans nos sensations, quand les sensations sont pures, c'est à travers le sensible propre que vous saisissez le sensible commun. C'est à travers le sensible propre. Ce qui est immédiat, c'est le sensible propre. Et le sensible propre est indivisible. Et le sensible commun est mesurable. Ce qui est très important de se rappeler ça. Donc, les sensibles communs conditionnent les sensibles propres. Ils sont saisis à travers les sensibles propres. Ce qui est très curieux, c'est que lorsqu'il s'agit d'une image, au point de vue imagination, une image qui n'est plus en continuité avec nos sensations, nos rêves, alors les sensibles communs passent avant les sensibles propres. Autrement dit, l'imagination fait une inversion. Et ça, je crois que c'est très important de comprendre ça. Vous comprenez que je ne peux pas faire de synthèse au niveau des sensibles propres. Les sensibles propres, c'est du pointillé. Donc, je ne peux pas faire de synthèse. Si l'imagination a le besoin de faire des synthèses, elle ne peut faire des synthèses que par les sensibles communs. Pensez à vos rêves, vos cauchemars. C'est toujours le nombre, c'est toujours le mouvement. Vous dégringolez, ou bien l'immobilité. Vous êtes fixé, puis les brigands arrivent, et vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas vous fuir, c'est impossible d'être fixé. L'immobilité, le repos absolu. Ou bien au contraire, la descente, la fuite. Vous êtes en auto, les freins cassent. Alors vous dégringolez indéfini, plus vous avancez, puis vous vous réveillez au moment où ça s'arrête. Vous voyez, le sensible commun... Ça, qui tout d'un coup, le sensible propre, la sensation. C'est ça le réveil. Quand on reste dans les sensibles communs, vous restez dans le cauchemar. C'est extraordinaire, ça. Un monde de sensibles communs, c'est un monde de cauchemar. C'est extraordinaire. Où il y a le réalisme, c'est les sensibles propres. Redécouvrir les sensibles propres, être attentif aux sensibles propres, c'est une condition de réalisme. Et les sensibles communs, c'est le conditionnement, au contraire. Alors, l'image reprend en premier lieu les sensibles communs et en second lieu les sensibles propres. Et les psychanalystes auxquels j'avais parlé sur ces questions-là me disaient que c'était très curieux. Que quand on est très fatigué, les cauchemars n'impliquent pas du tout de sensibles propres. Quand on est très fatigué, les rêves n'ont pas de sensibles propres. C'est quand on commence à être moins fatigué que dans les rêves, les sensibles propres reviennent. C'est très curieux comme baromètre de fatigue. Alors ne vous posez pas trop le cas, n'est-ce pas ? Cette nuit, vous avez rêvé, « Ah, mais oui, il y a eu un petit sensible propre, il y avait quelque chose de très très blanc. » très bien, ça va. Il y avait quelque chose de très lumineux, oui, les sensibles propres qui viennent, quelque chose de très rouge, les sensibles propres viennent, ou un son extraordinaire, merveilleux, des trompettes du jugement dernier. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, les sensibles propres reviennent. Alors, c'est très curieux, ça, et c'est très intéressant, parce que c'est la relation entre les sensations et l'imagination. Et ce qui fait comprendre comment l'imagination ne donne plus ce contact avec les sensibles propres, mais c'est la représentation. Les sensibles communs, c'est la représentation. Les sensibles communs, parce que c'est le conditionnement. Le conditionnement, je peux alors le modifier comme je veux. C'est de l'ordre de la représentation. C'est très important de saisir cela. Alors, il faut comprendre qu'à partir de Descartes, je ne sais pas si Occam l'a dit aussi. Je n'ai pas vérifié. Ce serait intéressant à vérifier. pour ne pas mettre tout ça sur le dos de Descartes, mais mettre ça sur le dos d'Occam. Parce qu'il a un meilleur dos, vous savez, parce qu'il est franciscain et qu'il est théologien. Donc il a un meilleur dos, il a un dos plus vaste que Descartes. Alors, je peux plus facilement comprendre ça. Alors, de fait, chez Descartes, les sensibles propres sont considérés comme subjectifs et les sensibles communs sont considérés comme objectifs. Vous voyez que l'objectivité devient l'imagination. Extrêmement intéressant, puisque seuls ils sont mesurables. Donc, s'ils sont seuls mesurables, mon objectivité ne va pas plus loin que les sensibles communs. Et je n'ai plus le contact avec le réel. Au niveau des sensibles communs, je ne peux pas, ce serait très intéressant à pousser ça jusqu'au bout, je ne peux pas distinguer le rêve de la réalité existante. Au niveau des sensibles communs, je ne peux pas distinguer le rêve de la réalité existante. Je distingue la réalité existante du rêve par les sensibles propres. Et pas par les sensibles communs. Alors, on pourrait dire, je distingue au niveau des sensibles communs, la seule manière de distinguer le rêve du réalisme, ce serait la mensuration. Ce serait l'intervention de l'intelligence. Oui. Alors, il faudrait voir si dans les rêves, on peut imaginer le point de vue d'une intelligence qui mesure. On peut l'imaginer, mais elle ne mesure pas réellement. Alors, on peut l'imaginer. Mais elle ne mesure pas réellement. Ça, c'est très curieux. Alors, ça, c'est un très, très gros problème. Vous voyez que c'est tout le problème des sciences modernes. C'est tout le problème des sciences modernes que Descartes a très bien saisi. Très bien saisi que l'objectivité ne pouvait pas aller au-delà des sensibles communs. C'est l'objectivité ne pouvait pas dépasser la mensuration. Si l'objectivité dépasse la mensuration, vous voyez donc que la philosophie a une objectivité plus profonde et plus radicale que la science. Et tout est là. Si au contraire, vous supprimez l'objectivité des sensibles propres, vous ne pouvez pas légitimer une objectivité philosophique qui aille au-delà de la science. C'est pour ça que ça n'a l'air de rien, mais c'est capital, la distinction des sensibles propres et des sensibles communs. Il faut y réfléchir souvent là-dessus. Une excellente méditation philosophique. Réfléchir souvent sur la distinction des sensibles propres et des sensibles communs. Et comprendre comment les deux zones entre les deux, vous voyez, le point de départ des sensibles propres, le point de départ des sensibles communs, va nous donner deux univers différents au point de vue du réalisme. Des deux côtés, il y a du réel, mais ce n'est pas le même réalisme. C'est un réalisme de mensuration, c'est un réalisme qualitatif. Alors, il faut se demander aussi, une autre question, je pose ça, c'est parce que c'est pour vous poser quelques questions auxquelles il faut réfléchir. Il faut se demander aussi si l'intelligence, uniquement reliée au sensible commun, peut encore poser le jugement d'existence. J'ai déjà répondu tout à l'heure. Que l'intelligence liée au sensible propre peut seule poser le jugement d'existence. Bon, alors, il faut donc arriver à discerner ce domaine de l'imagination, ce domaine des souvenirs, du domaine de la sensation. La sensation a quelque chose d'immédiat. L'imagination est toujours médiate. L'imagination provient de la sensation, mais elle a son autonomie propre et elle fait ses propres synthèses. Et au-delà de l'imagination qui représente, il y a l'intelligence qui saisit. Et l'intelligence, en saisissant, découvre tout le problème de la signification. Alors, vous voyez là le problème très important de la représentation de la signification. Je vous en ai déjà dit un mot, mais c'est important. Alors, le problème christique se pose tout de suite. Dois-je commencer la critique par la sensation, par l'imagination ou par l'intelligence? C'est important puisque j'essaie de découvrir le premier moment de ma vie intellectuelle. Génétiquement, le premier moment de ma vie intellectuelle, c'est la sensation. Si je suivais un ordre génétique, je prendrais la sensation. Aristote, dans le De Anima, prend la sensation au point de départ. Et il a raison. au niveau philosophique. Au niveau critique, je fais l'inverse. Je fais comme Descartes. Au niveau critique, c'est là où on voit que Descartes a confondu critique et intelligence, et philosophie. Au point de vue critique, je commence par le point de vue de l'intelligence, en laissant pour le moment l'imagination et la sensation. Pourquoi ? Parce que, au niveau critique, je suis dans une attitude réflexive. Je réfléchis sur ma connaissance. Or, la sensation n'implique pas par elle-même une conscience réflexive. L'imagination non plus. C'est par l'intelligence que j'ai cette possibilité d'une conscience réflexive. Et c'est pour ça que je commence par l'intelligence. C'est l'intelligence qui est premièrement critiquable. En premier lieu, l'imagination et la sensation ne sont critiquables que par l'intelligence. Je ne peux pas faire une critique de la sensation pour elle-même. Ça va très loin. Et c'est très important de le comprendre. Je ne peux pas faire une critique de l'imagination pour elle-même. Je fais une critique de l'imagination et de la sensation au nom de la critique de l'intelligence. C'est pour ça que seule l'intelligence est critiquable par elle-même. Ça, il faut bien le saisir. C'est très intéressant de voir ça, parce que ça fait comprendre que la sensation et l'imagination sont au service de l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence qui est au service de la sensation. L'intelligence se sert de la sensation. L'intelligence se sert de l'imagination. Mais l'intelligence n'est pas au service de la sensation. L'intelligence n'est pas au service de l'imagination. Même pas dans l'art. Hein. Même pas dans l'art. Il ne faut pas dire que dans l'art, l'intelligence est au service de la sensation. Ce serait très faux. Ce serait méconnaître la grandeur de l'art. L'art a sa grandeur parce que ça touche l'intelligence. Et c'est le lien de l'intelligence et de la sensation qui fait la grandeur de l'art. Dire que dans l'art, l'intelligence est au service de la sensation, ce serait supprimer l'art humain. Ce serait à ce moment-là, bon, tout simplement, avoir une attitude qui ne serait plus une attitude humaine. Donc, la critique commence par l'intelligence. L'intelligence est elle-même complexe. Je vois l'étendue énorme des sciences. Je vois le problème de la philosophie et des sciences. Il y a deux domaines particuliers. Je ne peux pas a priori dire la science a supplanté la philosophie. Je ne peux pas dire ça a priori. Je constate qu'il y a une pensée philosophique et une pensée scientifique. Il faudra la critiquer. Mais je constate cela. Je constate que les sciences sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus nombreuses. Elles se particularisent de plus en plus. Je constate, au-delà du domaine des sciences, que toutes les sciences impliquent des jugements. Il y a un discernement. Et au-delà de la science, je m'aperçois qu'il y a des jugements affectifs, qu'il y a des jugements pratiques. Le domaine de l'intelligence est très vaste. Qu'il y a une intelligence artistique. Mais tout le domaine de l'intelligence. Décrivez tout le domaine de la vie de l'intelligence. C'est très vaste. Je me pose la question, qu'est-ce qui est premier ? Puisque c'est ça ma question. Quel est le point de départ de ma vie intellectuelle ? Le point de départ de ma vie intellectuelle ne peut pas être la science. La science, c'est la perfection de ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle est parfaite dans la science, au moins une certaine perfection. Donc, le point de départ de ma vie intellectuelle ne peut pas être la science. La science implique des raisonnements, des démonstrations, des inductions. Et elle implique des jugements et des discernements. Et les discernements et les jugements sont quelque chose de plus simple que les raisonnements. Donc, ils sont antérieurs. Puisque je cherche ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de premier. Je dois donc, avant de critiquer la science, oui, c'est très très important, ça, au point de vue hygiène de la pensée. Hein. Et je crois qu'il faut le suivre. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'ordre que je suis, notez pourquoi. Pas affectivement, effectivement, ça m'est bien égal. Mais notez pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Parce que c'est très important. C'est une hygiène de la pensée où on doit avoir une rigueur absolue dans la critique. Une rigueur absolue. On n'a pas le droit de faire un petit saut par mode d'autorité. Hein. Alors, l'immense avantage dans la critique, c'est que vous n'avez pas mode d'autorité. Saint Thomas n'en a pas fait. Aristote n'en a pas fait. Alors, vous êtes dans un domaine, vous êtes obligé vous-même de piocher. Et parce que je ne peux pas prendre des autres critiques qui sont des critiques qui ne sont pas d'une philosophie réaliste. Et c'est très vrai, on est devant un domaine, il y a eu des critiques thomistes qui ont été faites, mais qui sont beaucoup trop partielles. La critique du père de Tonquédec, qui est sûrement très bonne, c'est une des meilleures qui ont été faites. Mais elle est partielle. Je crois qu'on ne peut pas la ressortir aujourd'hui parce que c'est trop uniquement une critique d'un aspect. Il faut aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Vous avez les degrés du savoir de Maritain qui sont intéressants mais qui sont comme une ébauche. On doit aller beaucoup plus loin. Alors, on doit donc essayer de se poser la question au niveau de la critique de l'intelligence. L'intelligence m'apparaît, les activités intellectuelles qui sont en moi. Mes activités intellectuelles, partout, il y a signification. La science a une signification. Les mathématiques ont une signification. Symbolique, mais une signification. Parce que le symbolisme implique une signification. L'art a une signification. Symbolique aussi. La connaissance affective a une signification. Symbolique aussi. Il y a beaucoup de significations symboliques, hein. Très curieux. La connaissance affective, la connaissance artistique, les connaissances mathématiques ont des connaissances symboliques. Et puis, il y a une autre signification au niveau proprement philosophique. Ou alors, je retrouve un problème de signification à l'état pur. Je vois donc que dans le domaine des connaissances intellectuelles, il y a tout ce domaine scientifique, le développement scientifique. Le développement scientifique n'est pas premier. Là, je peux très bien me servir de ce que dit Aristote au niveau des analytiques. La science n'est jamais première au niveau de l'intelligence. Parce que la science part toujours de prémices. Toute science part de données antérieures à la science. Et elle se fonde sur ces données antérieures à la science. Je ne peux pas donc considérer que la science est là où je dois m'arrêter. Je dois essayer de comprendre qu'est-ce qui est avant la science. Qu'est-ce qui est avant la science? C'est le jugement. Les hypothèses. Il y a des hypothèses. Il y a des connaissances a priori. Les hypothèses. Qui me sont données. Que j'ai acceptées. Donc avant la science, il y a des connaissances qui me sont données sous le mode du jugement. Je dois maintenant me poser la question, est-ce que le jugement est ce qu'il y a de premier dans ma vie intellectuelle? Cette question est très importante, elle est très difficile, mais elle est très importante, au point de vue critique. Alors, c'est là où je peux me servir du langage comme signe et montrer que tous les jugements sont complexes. Même si le jugement porte sur quelque chose d'invisible, il est complexe. Il se donne toujours dans une complexité. Ce qui indique que le jugement n'est pas l'activité première, puisqu'elle implique composition et division. C'est un signe. Je peux aller plus loin et je peux voir que tout jugement implique affirmation et négation. Je peux toujours nier ce que j'ai affirmé. Je n'ai pas toujours droit de nier ce que j'ai affirmé, mais je peux toujours le faire. Il y a donc une possibilité à l'intérieur de l'intelligence, tant elle juge, d'affirmer nier. Ce qui montre que l'affirmation n'est pas première. Ou plus exactement, que le jugement n'est pas premier. Puisqu'affirmation et négation. Et que tous les deux sont des jugements. Il y a donc une complexité à l'intérieur du jugement qui explique la possibilité de nier. Si le jugement était absolument simple, on ne pourrait pas nier. Chercher la possibilité de nier, c'est quand même intéressant de voir pourquoi je peux nier. Pourquoi je peux nier ? La justification de la négation. Au niveau intellectuel, pas au niveau affectif, mais au niveau intellectuel. Je peux nier parce que le jugement n'est pas simple, n'est pas premier. Si le jugement était premier, je ne pourrais pas nier. Il doit donc y avoir une opération antérieure au jugement. Quelle est cette opération antérieure au jugement? C'est là où nous avons essayé d'étudier ce qu'est l'appréhension. Il faut découvrir, il faut vraiment la découvrir, une opération qui est antérieure au jugement, qui est comme l'élément du jugement, mais un élément fondamental, premier, et qui est le noyau premier de toute ma vie intellectuelle. C'est pour ça que c'est si important de faire la critique de l'appréhension. Nous avons essayé de faire cette critique de l'appréhension et nous avons vu qu'en faisant la critique de l'appréhension, nous faisions la critique du concept. Et nous voyons que le concept est une forme intentionnelle que l'intelligence forme au-dedans d'elle-même pour saisir, pour connaître. Je ne peux pas connaître intellectuellement quelque chose sans le concept. Autrement dit, il n'y a pas de connaissance préconceptuelle intellectuelle. On voit très bien comment Heidegger le dit. Il faut là montrer pourquoi Heidegger parle d'une connaissance préconceptuel, il dit que la connaissance de l'être est une connaissance préconceptuelle. Et il faudrait mettre en parallèle Bergson. Pour Bergson, la connaissance conceptuelle est une connaissance qui est toujours seconde. Avant, il y a une connaissance intuitive. Donc pour Bergson et pour Heidegger, avant la connaissance conceptuelle, il y a des connaissances préconceptuelles, l'intuition et la connaissance de l'être. Alors, il faut se demander pourquoi Heidegger dit cela et pourquoi Bergson le dit aussi. Au fond, c'est quand même intéressant de voir ce point de vue-là. Heidegger le dit parce que pour lui, la connaissance conceptuelle, ce n'est pas du tout ce que nous appelons, nous, notre connaissance conceptuelle. La connaissance conceptuelle, pour lui, c'est le conceptualisme. Et le conceptualisme, c'est de prétendre que la première chose que nous connaissons sont nos idées. Alors, si c'est la première chose que nous connaissons, ce sont nos idées, il faut donc qu'il y ait une connaissance antérieure à cette connaissance des idées, qui est la connaissance de l'être. Et là, il a parfaitement raison. Mais il faut faire comprendre à Heidegger, ce qui est plus difficile, que le conceptualisme n'est pas l'affirmation du concept. Affirmer le concept, ce n'est pas dire que la première chose que nous connaissons, c'est le concept. C'est dire que toutes nos connaissances intellectuelles impliquant l'abstraction impliquent des concepts. Mais la première chose que nous connaissons, ce n'est pas le concept, c'est le contenu du concept. C'est ce que signifie le concept. Ce n'est pas le concept lui-même, c'est le contenu. C'est tout à fait différent. Et Bergson, lui, s'oppose à la connaissance conceptuelle parce qu'il identifie la connaissance conceptuelle à une connaissance abstraite, comme si nous connaissions en premier lieu ce qui est abstrait, l'universel. Il veut au contraire que ce que nous connaissions en premier lieu soit une réalité simple. L'universel n'est pas simple, puisqu'il implique unum et multa. Donc l'universel n'est pas simple. Je comprends très bien comment Bergson ne peut pas accepter que la première chose que nous connaissions soit l'universel. Et donc il cherche la connaissance de quelque chose de simple. Mais pour nous, l'appréhension qui se fait par le concept touche quelque chose de simple. Donc il faut essayer, là, c'est une critique très importante, de comprendre que la première opération de notre vie intellectuelle, c'est l'appréhension, que cette appréhension implique une connaissance conceptuelle, donc la naissance du concept, et essayer de comprendre que la naissance du concept se fait par l'abstraction, et que cette abstraction se fait par l'image, grâce à l'intellect agent. C'est tout ce qu'il faut poser pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'appréhension. Ce n'est pas commode du tout. Il faut bien le reconnaître. Hein. C'est essayer de saisir le premier moment de notre vie intellectuelle. Comprendre ensuite, une fois qu'on a fait cette étude de l'appréhension, comprendre ensuite qu'il ne faut surtout pas isoler l'appréhension du jugement. Ce que la basse scolastique, donc à partir de Occam, la basse scolastique commence à partir du XIVe siècle, donc la basse scolastique à partir de Occam a fait. Elle a isolé l'appréhension du jugement. Et c'est ce que nous voyons alors parfaitement chez Descartes. Mais on ne peut pas comprendre Descartes si on ne comprend pas Occam et si on ne voit pas avant ce que c'est que la scolastique. C'est impossible. Il faut voir combien Descartes est lié à toute la pensée scolastique. Vous voyez là le petit dictionnaire de Gilson. Hein. Quand vous verrez Descartes, hein. Lisez le petit dictionnaire. Il a fait un très bon petit dictionnaire merveilleux. Tous les mots que Descartes employait pour montrer que ces mots étaient des mots scolastiques, mais qu'ils avaient une signification scolastique et une signification cartésienne. Et de voir que le propre, vous voyez, de ce renversement de signification, une subversion, c'est d'employer les mêmes mots en leur mettant une autre signification. Alors vous employez les mêmes mots, mais vous mettez une autre signification. C'est ça la subversion. C'est au niveau de la signification. Vous employez les mêmes mots. Descartes emploie les mêmes mots. Mais il donne une autre signification à ces mots. Alors, il faut, à partir de l'appréhension, revenir au jugement. Et c'est ce que nous avions fait. Nous avions commencé la critique du jugement. Nous avions déjà, du reste, bien avancé dans la critique du jugement. On va la continuer. Parce que c'est important pour ensuite étudier la critique de l'induction et la critique de la déduction, ce qui est important. Et seulement après, voir la critique de la science. Et seulement après, revenir à l'imagination et aux sensations. Mais comme tout ça est important de saisir l'ordre, c'est très très important en critique. Je crois qu'en critique, la question de l'ordre est plus fondamentale encore que nulle part ailleurs. Parce qu'il s'agit d'une réduction. Et il s'agit ensuite de comprendre comment nous arrivons à ce que nous pensons habituellement et de saisir tous ces éléments. Alors il faut, après l'appréhension, qui est une opération simple, simple quant à ce qu'elle touche, apprehensio simplex, comme disent les scolastiques. Donc l'appréhension simple, simple parce qu'elle touche, c'est un toucher de l'intelligence. Cette appréhension simple n'est pas simple du tout au niveau de notre vie intellectuelle, puisqu'elle implique une abstraction. Elle implique le passage de l'image à la forme intelligible, au concept. C'est pas simple du tout. Mais c'est vrai qu'elle a un contenu simple. Et le contenu de l'appréhension, c'est le tout confus, la quiddité ou la ratio actus. Voilà les trois aspects que saint Thomas souligne. Et saint Thomas les souligne d'une manière extrêmement rigoureuse. C'est qu'en effet, il y a des degrés dans l'appréhension. Ce qui montre bien qu'elle n'est pas d'une simplicité absolue. Parce que si elle était absolument simple, il n'y aurait pas de degrés. Ça montre que c'est une opération simple, élémentaire. Alors, parce qu'elle est simple, élémentaire, elle a des degrés différents. Elle peut avoir des degrés différents, parce que nous la saisissons à partir du jugement. Et les jugements sont divers. Alors, nous saisissons le point de départ de l'appréhension, c'est le tout confus. Nous saisissons ce qui caractérise l'appréhension en voyant le point de vue de l'acuité des choses sensibles, et nous saisissons l'ultime moment de l'appréhension, qui est la ratio actus.
Blanc.
Ben oui, tu peux observer, c'est tellement important que ça soit bien joli au dernier jour.
Ah, c'est pour ça. Une prise d'avis.
Voilà, c'est ça.
Et trois. Pas que je fasse de blagues.